Nous sommes bien gâtés pour ce texte du jour. Tous ces versets dans ce chapitre 3 de l'évangile de Marc. Un joyeux fourre-tout. Alors nous sommes au début de l'évangile. Vous savez que Marc est l'évangile qui a été écrit le plus tôt des quatre évangiles. Et c'est aussi le plus factuel et le plus court. Jésus a été baptisé par Jean. Il a été tenté dans le désert. Il a appelé ses premiers disciples pour en faire des pêcheurs d'hommes. Et au troisième chapitre, il a déjà guéri de nombreux malades. Il a commencé à enseigner à propos du jeûne et du sabbat, dont l'homme est le maître. Au début du chapitre 3, Jésus guérit encore un homme à la main paralysée. Et puis nous arrivons à notre passage, avec une renommée de Jésus qui déjà le dépasse. Puis le choix des 12, la discussion avec les maîtres de la loi, et enfin les propos de Jésus sur la famille. La première impression que je ressors de tous ces versets, c'est de la sympathie avec ce Jésus qui semble complètement dépassé par la situation. Il n'est qu'au début de son ministère et semble déjà submergé par tout ce qu'il doit faire. Devant l'afflux important de la foule, ayant déjà appris ses nombreuses guérisons, il presse ses amis. « Préparez-moi une barque afin que la foule ne m'écrase pas. » En grec, ce verbe « tlibo » signifie « serrer, resserrer ». Et on ne le retrouve qu'une seule autre fois dans les évangiles, chez Matthieu, pour qualifier la porte étroite. La porte donc serrée, qui mène à la vie et par laquelle Jésus nous invite à entrer. C'est donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est serrée, étroite. Et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Voilà, un peu comme la vie de ce Jésus qui n'a pas été simple et qui n'a pas coulé comme un long fleuve tranquille pendant plus de 30 ans. Ma propre vie ne peut qu'en être de même. Nous vivons tous parfois des moments où nous nous sentons oppressés par les événements ou par les autres, étouffés par une vie compliquée. Et nous le lisons ici, c'est d'abord la vie de tous, celle que tout un chacun traverse, croyant ou non, mais aussi la vie du chrétien, de celui qui est appelé à choisir la porte étroite, la porte serrée, celle par laquelle il est plus difficile d'entrer. Nous connaissons tous les chemins voulu par Dieu. La confiance, le pardon, la patience, la paix, l'espérance. Et tous ces chemins sont la plupart du temps difficiles à entreprendre. Le fameux « choisis la vie » dans le Deutéronome n'est pas simple à appliquer à chaque instant de nos vies. Alors, voir un Jésus dépassé, voir un Jésus étouffé par la porte étroite qu'il doit trouver, nous rassure, nous encourage, nous apaise pour notre quotidien. J'affectionne ce Jésus humain qui appelle au secours ses amis pour ne pas sombrer. Je me reconnais dans cet homme Dieu qui vit des moments difficiles et cherche de l'aide auprès de ses amis. Il est d'ailleurs ensuite surprenant, ou non, de voir que nous ne savons pas si les amis ont finalement emmené la barque à Jésus. Le texte ne nous en parle pas. L'important, comme toujours dans la Bible, ce n'est pas tellement la réponse, mais plutôt l'élan, le choix de la vie. Alors nous avons quand même une transition dans ce récit entre le lac et la montagne, où ensuite Jésus se rend pour appeler les disciples. avec cette transition avec les esprits mauvais que Jésus renvoie. Ne dites pas qui je suis. Lors de son ministère, Jésus a toujours refusé son identité, que son identité de fils soit partagée par un autre que par son père. Et ici, dans la bouche d'esprit mauvais, il le rejette encore. Il ne veut pas oublier que la relation au Père est d'abord dans la foi, dans la confiance, et non dans le résultat de guérison, d'action prodigieuse ou de miracle. Ce rejet de Jésus face aux esprits mauvais montre que son immense popularité ne doit pas être exploitée par les forces du mal. Seul le Maître choisit ses témoins. Et c'est ce qu'il fait ensuite du haut de la montagne. Après ce récit, Jésus revient à la maison, nous dit le chapitre 3. Et la foule, là aussi, est tellement pressante que, poursuit le texte, Jésus et ses disciples n'ont même pas le temps de manger. Rendez-vous compte. C'est assez surprenant, risible presque, de lire une telle phrase dans les évangiles. Un tel détail. Jésus a quand même des choses un peu plus ultimes à réaliser que manger. Et pourtant, Marc a eu ce besoin d'écrire cette phrase. Rendez-vous compte, Jésus n'a pas le temps de manger. Jésus est un homme, un vrai. Vrai Dieu, vrai homme. Il a, comme nous, connu tous nos besoins. Et cela aussi est pour nous un encouragement. Un apaisement, un acte d'espérance. Et c'est alors que les siens, la famille de Jésus, inquiets sûrement par l'enchaînement des événements, viennent le chercher. Et le texte dit même « Jésus était devenu fou ». Alors en grec, nous avons ce verbe « existémie » qui signifie « être hors de sens ». Une seconde et unique autre occurrence se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, si nous avons été fous, encore une fois, hors de sens, c'est pour Dieu. Ce petit verset éclaire la fin de notre chapitre 3 sur les fameuses questions controversées de Jésus. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? L'évangile semble alors perdre tout sens pour ceux qui l'entendent. Et la famille de Jésus vient essayer de le faire taire, ou dit de façon moins virulente, vient essayer de le protéger, d'un état qu'il ne maîtriserait plus, d'actes et de paroles qui dépasseraient l'entendement. Qui est donc ce maître qui ose remettre en question la place du jeûne et du sabbat, qui choisit ses disciples parmi des pauvres gens, qui enseigne hors des synagogues, qui guérit de tous côtés et qui réduit au silence les esprits mauvais? Jésus prend des risques et va si loin qu'il est en train de se couper de sa propre famille. Et nous? Et moi? Ai-je foi en ce Christ fou? Ai-je foi en ce Christ audacieux? Ai-je l'audace d'aller aussi loin que lui, aussi loin que me le demande parfois l'Évangile, au prix de mes relations peut-être amicales ou familiales? Jésus a toujours vécu, mangé, pleuré, parler et agit au milieu de tous, des foules, des petits, mais aussi des maîtres, des femmes, des hommes, des juifs, des païens. Et c'est dans la rencontre avec son prochain, dans la vérité du cœur, qu'il n'a eu de cesse d'annoncer la bonne nouvelle. Et cela sans se soucier des critiques, des menaces, des qu'en dira-t-on, ou d'une soi-disant réputation à honorer. Et pour tout cela, il en a perdu jusqu'à sa vie, pour que chacun de nous, finalement, puisse gagner la sienne. Alors, c'est maintenant dans notre texte que les maîtres de la grande ville viennent prendre cas de celui qui fait tant parler de lui. Le petit guérisseur de province est alors moqué, en étant appelé par eux le Seigneur des mouches. C'est la traduction de Belzéboul, mot grec pour Satan, le Seigneur des mouches. Jésus a en lui Satan, dit le verset 21. Jésus est ici accusé de faire alliance avec les esprits mauvais, ce qui revient à le considérer comme un magicien, un personnage redouté et très sévèrement puni en Israël. Et il se défend. Jésus se défend à l'aide de paraboles. Non, ce ne sont pas les esprits mauvais qui le conduisent, il ne vit que de l'Esprit de Dieu. Et ce joyeux fourre-tout, chapitre 3, se termine par le fameux épisode du Jésus qui tourne le dos à sa famille. Sachant que cette même famille, qui le trouve hors de sens, veut l'enfermer pour éviter toute polémique, on peut comprendre que Jésus ne soit pas ravi de les avoir de nouveau à la porte pour l'attendre. Et on entend alors peut-être plus facilement ces dures questions du maître. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Nous ne sommes pas bien sûr ici dans l'apologie de la rupture familiale, mais il s'agit simplement pour Jésus de refuser le ni oui ni non, les compromis. Il témoigne que la bonne nouvelle doit se vivre pleinement et qu'il est sage de remettre chaque chose à sa place. Notre identité d'enfant de Dieu est celle qui dépasse, qui englobe toutes nos autres identités et qui parfois prend le dessus sur nos choix de vie et nos relations. Même quand mes parents ne seront plus, quand je serai en rupture avec ma sœur, quand mes enfants me tourneront le dos, et quand je serai sans amis, Dieu le Père, en Jésus-Christ, sera toujours à mes côtés. Et mon identité d'enfant de Dieu sera en moi pour l'éternité. Et dans ce petit verset, Jésus exprime en même temps que sa mère, ses sœurs, ses frères, sont tous ceux qui suivent la voie du Père. Soyons des frères et des sœurs ensemble et entre nous. Vivons en frères et sœurs. Ayons pleinement confiance de cette chance, de cette richesse supplémentaire pour nos vies. Je ne suis pas seule. Des frères, des sœurs sont aussi là pour moi. Au nom du Christ vivant qui nous rassemble et nous unit. Amen.